Un berger a fait une chute mortelle dans le val du Mesolcina. Tel était le titre d'un quotidien suisse, Le Nouvelliste, paru le 28 octobre 2018. Alors qu'il transportait un mouton perdu sur un terrain très accidenté, un berger de 38 ans a fait une chute de 6 mètres dans le val du Medolcina, dans le canton des Grisons. Alors on les a retrouvés tous les deux dans le bas du précipice. L'agneau protégé par les bras du berger était vivant, mais le berger, malheureusement, lui, était mort. Alors, ce fait divers n'est pas sans nous rappeler, finalement, l'histoire d'un autre berger que nous connaissons et dont nous allons rappeler quelques caractéristiques dans un moment. En Belgique, il y a des éleveurs de moutons. En Wallonie, même, l'élevage de moutons est en recrudescence, augmente. Mais, à ma connaissance, il n'y a plus à proprement parler de véritables bergers qui conduisent leurs brebis çà et là pour les faire paître, pour les faire brouter. Je me souviens qu'il y a une trentaine d'années d'ici, environ, le temps passe tellement vite, hein, eh bien, on avait vu un reportage à la télévision sur un des derniers bergers qui était encore en activité en Belgique. Je crois que c'était dans la région du centre. Il se baladait, non, il avançait le long du halage et ses brebis broutaient l'herbe qu'il y avait au bord du canal. Alors, c'est un métier qui s'est aussi raréfié en France, tant et si bien que la transhumance, eh bien, a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et on peut voir, effectivement, encore dans les Alpes, dans le Jura ou dans le Massif central ou dans les Pyrénées, des bergers qui vont en alpage ou bien sur le haut des montagnes pour faire paître leurs troupeaux de moutons. Dans les pays du Sud, c'est encore une activité relativement fréquente. On voit encore des bergers qui conduisent leurs troupeaux de moutons. Et au temps biblique, c'était une activité courante, ordinaire. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, tout comme dans le Nouveau Testament, on retrouve souvent cette image du berger qui représente tantôt Jésus, Dieu, le bon berger et le berger d'Israël, et tantôt aussi les leaders du peuple, les leaders spirituels du peuple d'Israël, les anciens, les rois, etc. Alors on va lire dans Jean 10, bien sûr. Cette belle histoire du bon berger qu'on connaît tous, hein? Mais c'est bon de rappeler certaines vérités, certaines choses. Jean 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 21. Et le texte nous dit ceci donc, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les mène dehors. Et les mène dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, dit Jésus, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient ces paroles. D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Alors j'aimerais ce matin rappeler brièvement quelques-unes des caractéristiques propres au bon berger. Il y en a beaucoup, mais on va en relever quelques-unes. Au verset 3, tout d'abord, n'est-ce pas, nous lisons que « Il, le bon berger, appelle ses brebis par leur nom. » Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Alors, chaque brebis est différente et il les distingue chacune par un nom. Chacune de ces brebis a de la valeur à ses yeux. Chacune de ces brebis a un prix inestimable pour Dieu. Son troupeau n'est pas une masse de brebis anonymes ou impersonnelles, mais chacune d'entre elles, chacune des brebis du troupeau porte un nom, porte un nom. Alors déjà, dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu, en parlant d'Israël, déclarait au chapitre 43, verset 1er, et je lis, « Je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, je t'aime. Je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, je t'aime. » Mais quelle déclaration ! Et ainsi en est-il pour chacune des brebis du troupeau du bon berger. Il nous connaît chacun par notre nom, individuellement. Dieu connaissait Moïse par son nom. Exode, chapitre 33, verset 17. Je te connais par ton nom. Parmi les 8 milliards de personnes qui peuplent la terre, Dieu connaît l'identité de chacun de ses enfants. Sur les 8 millions de personnes, d'individus qui peuplent la terre, Dieu connaît l'identité de chacun de ses enfants. Dieu connaît chaque brebis qui lui appartient. Alors, le verset 4, nous lisons, « Il marche devant elle, devant les brebis, et elles les suivent. » Et elles les suivent. Le bon berger marche devant ses brebis. Il est leur guide, il est leur conducteur, c'est lui qui les dirige. Et les brebis, que font-elles? Eh bien, elles le suivent. Les brebis marchent à sa suite, comme finalement les disciples marchent à la suite de leur maître, comme les disciples suivent leur maître. À plusieurs reprises, Jésus a adressé cet ordre, « Suis-moi ». Ainsi, par exemple, on voit cela dans Matthieu 8, 22, on ne va pas lire les versets, je les cite simplement comme ça, Matthieu 9, verset 9, Marc 2, verset 14, etc. Et il a ainsi appelé les 12, qui deviendront les disciples, à le suivre. « Toi, suis-moi », on se souvient de ces paroles, ou bien « Toi, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes », suivre Jésus, suivre le bon berger. Suivre Jésus, eh bien, c'est dire oui à sa volonté et bien souvent dire non à la nôtre. Suivre Jésus implique parfois de refuser de suivre certaines compagnies, certaines personnes, certains amis. Suivre Jésus implique aussi parfois de renoncer à certains désirs, à certains plaisirs, à certaines cultures populaires, à certaines activités populaires. Suivre Jésus implique parfois un renoncement. Alors on ne peut pas suivre deux choses, on ne peut suivre qu'une chose à la fois. On ne peut pas suivre deux choses à la fois. Je ne peux pas suivre Gino si je vais faire une promenade et puis que Jean-Pierre va de l'autre côté, je ne peux pas le suivre. Je ne peux pas suivre deux choses à la fois. Et souvenons-nous, quand le prophète Élie a défié les prophètes de Baal en leur demandant d'offrir un taureau et lui-même d'offrir un taureau à l'Éternel son Dieu, après que le feu soit descendu du ciel pour consumer le taureau d'Élie, Élie a posé cette question au peuple, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Ou c'est Dieu, ou c'est Baal. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. » Alors la question qui se pose, bien sûr, c'est de savoir est-ce que nous marchons à la suite de Jésus. Jésus nous a laissé un exemple, nous dit 1 Pierre chapitre 2, verset 21, afin que nous suivions ses traces, suivre Jésus. Suivre Jésus. Le bon berger marche devant ses brebis dans la pureté, dans l'amour, dans la sainteté, dans l'humilité, dans la lumière. Jésus encore, lui, a dit en Jean chapitre 8, verset 12, si je me souviens bien, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Suivre Jésus. Est-ce que nous suivons Jésus? Est-ce que nous marchons à sa suite? Est-ce que nous marchons dans l'amour? Est-ce que nous marchons dans l'humilité? Est-ce que nous marchons dans la sainteté? Est-ce que nous marchons dans la lumière? Suivre Jésus. Est-ce que je suis l'exemple que le bon berger m'a laissé? Alors, il nous arrive malheureusement de ne pas marcher où il marche. Ça nous arrive malheureusement. Ça nous arrive de prendre une voie de traverse. Il nous arrive de nous détourner de son sillage. Et c'est alors que nous nous égarons, qu'on se perd. Alors si on se perd, si on s'égare, eh bien on perd aussi le profit, le bénéfice de gras pâturage, de ces bénédictions que Dieu nous accorde. On perd également le bénéfice de la chaleur de la communion du troupeau. Et on perd aussi le bénéfice de la sécurité et de la protection qu'apporte ou que peut apporter le bon berger. Cependant, lorsque, hélas, il nous arrive de prendre une voie de traverse, de prendre une autre voie, de prendre une mauvaise voie, lorsque nous avons perdu la trace du bon berger, eh bien, Jésus, le bon berger, se met immédiatement à notre recherche. Ézéchiel 34, au verset 16, nous dit, Ézéchiel 34, au verset 16, nous dit, c'est le berger d'Israël qui parle, Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses, vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et c'est le début du verset qui nous intéresse particulièrement. Je chercherai celles qui étaient perdues et je ramènerai celles qui s'étaient égarées, dit le berger d'Israël. Quel berger magnifique, merveilleux. Que fait la brebis quand elle est perdue? Que fait un mouton perdu? Vous savez ce qu'il fait? Mais il bêle! Il crie. Vous savez, j'ai un troupeau de chèvres à la maison. Et alors, elles sont bien confinées dans leur enclos où l'herbe est verte. Mais l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et à l'arrière du bois, à l'arrière de la prairie, il y a un bois. Et parfois, il y a une chèvre qui s'aventure par là et qui s'égare. Et quand elle est séparée du troupeau, quand elle n'est plus avec ses congénères, eh bien, on l'entend bêler. Elle signale son absence. Elle signale qu'elle est en détresse. Et elle demande d'être secourue. Alors, c'est facile de la retrouver, on l'écoute. Samuel est même venu une fois avec moi à la recherche d'une chèvre qui s'était égarée. Tu te souviens? C'est toi qui l'as attrapée, d'ailleurs. Eh bien, c'est comme ça aussi avec le bon berger. Dès que nous sommes en perdition, dès que nous nous sommes égarés, eh bien, disons-le lui. Crions à lui. Seigneur, disons-lui, Seigneur, tu sais que je me suis perdu. Tu sais que je me suis perdu sur la corniche de la falaise abrupte de mes passions. Oh Seigneur, tu sais que je me suis perdu sur la falaise abrupte de mon impureté, ou celle de ma médisance, de ma mauvaise langue, de mes murmures, de mes contestations, de ma rébellion. Seigneur, tu sais que je me suis égaré sur la corniche, et je me trouve sur la corniche de la falaise abrupte de l'alcool, de la drogue ou de quelque autre dépendance. Seigneur, viens à mon aide. Crions au Seigneur. Seigneur, tu sais là où je suis, tu sais là où j'en suis. Appelle-le, crie à lui et il t'entendra. Comme on peut entendre une brebis qui est perdue et qui est en détresse. Crions à Dieu et il nous entendra. N'est-il pas écrit d'ailleurs en Luc chapitre 15 que lorsque le berger a perdu une brebis, il laisse les 99 là dans la bergerie pour se mettre à la recherche de sa brebis qui est perdue dans les montagnes. Oui, nous pouvons alors réintégrer la communion et la chaleur de la communion du troupeau et de la présence du bon berger. Retrouver les bénédictions qu'il nous apporte, ces verts pâturages. Le verset 14 nous dit « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». C'est bilatéral. Je connais mes brebis, dit le bon berger, et mes brebis me connaissent. Alors on peut se poser la question, mais à partir de quand est-ce qu'on peut connaître quelqu'un? À partir de quand est-ce que nous pouvons connaître quelqu'un? Je peux lire la biographie d'une personne célèbre. Allez, je peux lire la biographie de l'acteur de cinéma Denzel Washington, par exemple. Vous connaissez celui-là, hein? Et lire sa filmographie, mais est-ce que je pourrais affirmer pour autant que je le connais personnellement, que je connais Denzel Washington? Non, bien sûr. Si je pose la question à mon ami Gino, là, oui. Tu connais Luciano Spalletti? Alors, on dit, ben oui, je le connais, hein, c'est l'entraîneur de l'équipe d'Italie. Alors, il va me citer son palmarès en tant que joueur, en tant que... en tant qu'entraîneur, mais est-ce que Gino pourrait affirmer qu'il le connaît vraiment, réellement? Et ça, j'en douterais, bien évidemment. En lisant les Écritures, on peut connaître un tas de choses sur Dieu, sur Jésus. Mais est-ce qu'on le connaît réellement, de façon authentique? Le connaissons-nous de façon réelle? Vous savez, il y a beaucoup de professeurs de philosophie qui connaissent bien la Bible, connaissent bien la philosophie qui se dégage de la Bible, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Le nouveau dictionnaire théologique international, donc du Nouveau Testament, volume 2, page 398, explique que, et je lis ce qu'il cite, hein, dans la Bible, le verbe connaître va souvent bien au-delà de la simple acquisition d'informations ou de connaissances intellectuelles. Il s'agit d'une connaissance profondément personnelle, intime et profonde, qui peut même parfois faire référence, dans certains contextes, à une union sexuelle, comme c'est le cas dans Genèse chapitre 4, verset 1, où il nous est dit « Adam connut Ève ». Adam connut Ève. Connaître, donc, exprime une relation personnelle entre celui qui connaît et celui qui est connu. Alors, la connaissance envisagée dans Jean 10 n'est ni superficielle, ni simplement intellectuelle, ni abstraite, ni lointaine, mais c'est une connaissance intime, profonde et authentique du bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme, et le Seigneur établit cette comparaison, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. La connaissance que le berger a de ses brebis et que ses brebis ont de lui est semblable à la connaissance que le Père a du Fils et que le Fils a du Père. Alors, pour connaître quelqu'un, bien sûr, ça demande de passer du temps avec lui, de pouvoir échanger, de vivre des choses ensemble. Autrement dit, pour connaître quelqu'un, cela nécessite d'être en communion, en relation et interagir avec lui. Et alors là, on commence véritablement à connaître quelqu'un. Et la question qu'on peut se poser personnellement ce matin, est-ce que je connais Jésus d'une telle manière? Est-ce que je connais Jésus comme ça? Est-ce que je connais Jésus intimement, personnellement? Et donc, on retrouve également dans le verbe connaître, ginosko, c'est facile à retenir, ça s'écrit gino, ça s'écrit gino, ginosko, connaître. Donc, l'implication du verbe connaître, donc ici dans la langue du Nouveau Testament, eh bien, elle implique aussi un processus évolutif, une connaissance progressive. Je connais de plus en plus. Et on retrouve ce même mot, notamment dans Jean 17, verset 3, où nous lisons « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus, et le Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ, et son Fils qu'il a envoyé, Jésus-Christ. » Et on retrouve ce même verbe-là. Qu'ils connaissent toi le seul vrai Dieu, ou bien qu'ils apprennent à te connaître. Donc il y a là un processus évolutif dans la notion de connaître. Nous sommes toujours en train de connaître toujours mieux Dieu à travers la communion que nous pouvons avoir avec lui. Alors au verset 11 et au verset 15, tu peux n'afficher que le verset 15, Olivier ou bien Alexandre. Au verset 15, voilà. Donc, là, on découvre que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Et je donne ma vie pour mes brebis. Et au verset 11, on voit que Dieu donne la vie, donc donne sa vie pour ses brebis, afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient ou qu'elles qu'elles soient dans l'abondance ou qu'elles aient l'abondance. Alors, ben c'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, Jésus a offert sa vie pour que nous puissions être délivrés, comme nous l'avons rappelé à plusieurs reprises ce matin, à travers nos chants, nos prières et les différents textes qui nous ont été lus. Alors, nous découvrons donc que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait en allant à la croix. Et non seulement il donne sa vie pour ses brebis, mais il offre aussi une vie en abondance. Et ça nous fait penser à deux versets des épîtres de Paul, Éphésiens, donc au chapitre 1er, verset 3, où nous lisons « Parce que nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions. » En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La paix, le pardon, la grâce, l'espérance, la paix, donc je viens de le dire, la sécurité, etc. Et puis ça nous fait penser aussi à un autre verset que l'on trouve dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 20, et qui nous dit, vous avez tout pleinement en Christ. Vous avez tout pleinement en Christ. Dieu, en Jésus-Christ, le bon berger est venu s'offrir afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Et Dieu a en réserve pour chacun de ses enfants, pour chacune de ses brebis, une vie en abondance. Dieu nous offre la possibilité de connaître une vie de qualité. Alors, j'aimerais, il y a beaucoup d'autres. Oui, tout d'abord, donc à Gethsémané, Jésus a eu affaire avec celui que le loup représente, c'est-à-dire Satan. Satan qui aurait voulu la perte et la mort des brebis, et Satan, à la croix, a été vaincu par Jésus qui a triomphé de lui. Il a ainsi délivré ses brebis de la mort et nous avons cette promesse merveilleuse, nul ne peut les enlever de ma main, nul ne les ravira de ma main, dit Jésus. Alors on trouve beaucoup, comme je le disais il y a un instant, beaucoup d'autres caractéristiques du bon berger dans Jean 10, dans Ézéchiel 34, mais j'aimerais bien rappeler une caractéristique pour terminer que l'on trouve dans le psaume 23. On connaît ce merveilleux psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et puis il restaure mon âme. Dieu est un bon berger qui veut restaurer notre âme. Alors parfois, on a des blessures profondes. Parfois, on est tributaire d'expériences ou d'événements traumatisantes qui sont gravés dans notre âme. Et ça nous fait souffrir. Eh bien, Le bon berger veut aussi guérir notre âme. Le bon berger veut aussi nous apporter une bonne santé émotionnelle, finalement. Il veut restaurer notre âme, même si cela prend du temps. La parole de Dieu, l'action vivifiante du Saint-Esprit et aussi la puissance de la louange sont capables de nous délivrer de nos sentiments, de nos émotions négatives. L'Éternel restaure mon âme. Ça a été l'expérience de David. Ça peut être aussi la nôtre. David proclame dans son chant de louange, dans son psaume, « Oui, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. » David est témoin de la restauration de l'âme, de son âme que Dieu lui a apportée. Et nous pouvons aussi nous-mêmes bénéficier de cette même restauration. La présence agissante de Dieu dans ma vie peut opérer la guérison des souvenirs. Et cela aussi, c'est la vie en abondance que Dieu propose, que Dieu promet. Alors, pour conclure, nous avons un bon, nous avons un grand, nous avons un intentionné, nous avons un vigilant berger. Alors, il est important de réaliser la réalité de la présence de ce bon berger, la présence permanente de ce bon berger dans chacune de nos vies, afin de pouvoir affirmer et proclamer avec David, « Oui, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. » Est-ce que ce matin, nous sommes bien conscients que nous sommes entre les mains du bon berger, celui qui nous conduit, celui qui nous protège, celui qui nous remplit de bénédictions spirituelles, qui nous apporte de gras pâturage, celui qui panse nos plaies, celui qui vient à notre recherche, celui qui nous ramène dans le bercail. Est-ce que nous sommes bien conscients ce matin que le bon berger est aussi capable de restaurer notre âme, de réparer notre âme, de rétablir notre âme, de restaurer des sentiments positifs dans chacune de nos vies et de bannir loin de nous toutes ces émotions qui nous font de la peine, qui nous attristent ou qui nous font souffrir. Que Dieu nous aide donc à considérer toutes ces caractéristiques. Nous sommes entre les mains d'un bon berger. Et on va prier ensemble, si vous le voulez bien. Merci Seigneur pour ta parole qui est là et qui nous rappelle effectivement que nous sommes entre les mains d'un bon berger, donc entre de bonnes mains. Seigneur, c'est bon de savoir que rien et personne ne peut nous ravir de ta main. Nous sommes dans le creux de ta main et tu nous protèges, tu nous gardes. Tu permets que nous puissions être en relation intime, en relation personnelle et profonde avec toi. Merci Seigneur pour ce grand privilège que nous avons de pouvoir te connaître. Et merci aussi pour ce privilège immense que nous avons de savoir que tu nous connais aussi. Seigneur notre Dieu, garde-nous dans ta main et que nous puissions poursuivre notre route ici-bas en marchant dans tes traces, en suivant le sentier que tu traces pour nous, en suivant ta voie, en évitant de nous égarer à gauche ou à droite dans des impasses qui nous éloignent de toi, de la proximité que nous pouvons avoir avec toi. Seigneur notre Dieu, merci aussi parce que si malheureusement il nous arrive de nous égarer, nous pouvons toujours crier à toi. Tu nous entends, tu viens à notre recherche, Seigneur. Tu nous secours, tu nous ramènes, tu nous pardonnes et tu rétablis, tu restaures cette communion que nous pouvons avoir avec le bon berger. Merci Seigneur pour toutes tes grâces envers nous, pour toutes tes bontés, pour l'abondance spirituelle que tu nous accordes Seigneur. Tu es venu pour que tes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance, qu'elles soient dans l'abondance. Nous voulons te bénir et te louer pour cela, te remercier parce que comme le confirme également l'apôtre Paul, nous avons tout pleinement en toi. Oui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Seigneur, c'est cela aussi, cette vie en abondance que tu veux nous accorder, que tu veux nous apporter, dont tu veux nous faire bénéficier. Sois exalté, sois loué ce matin pour ce que tu es, pour ce que tu représentes pour chacun d'entre nous. Nous t'adorons, nous te bénissons parce que tu nous aimes, tu nous conduis, tu nous diriges et tu prends soin de nous. Amen. Voilà, je vais